Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 5, chapitre 17, seconde attaque où le chef catholique trouve la mort, 4 mai 1533. Quolibé, des Huguenots partent pour Lyon, la fête du Saint-Suaire, importance du combat, rôle des fées à Genève, une promenade se change en tumulte, un agent du clergé fait amorce, le jeûne de Versonnet, Vernely se lève pour combattre. Le tocsin, moment décisif, appel de Vernely, ses premières provocations, combat nocturne, Vernely aux prises avec les Huguenots, sa mort, la nuit. La Réformation de Genève voyait à la fois dans ses rangs les amis de la vérité évangélique et ceux de la liberté politique. C'était un bien et un mal. La main vigoureuse des Huguenots était peut-être nécessaire pour réprimer les intrépides mamelouks, mais il était fâcheux qu'à côté de l'armure de l'esprit brillât aussi celle de la chair. Si l'argumentation par syllogisme est mauvaise dans l'ordre religieux, l'argumentation par hallebarde est pire encore. Quelques partisans de la réforme, retournant le « contrin-les d'entrée » de l'Église romaine, pratiquaient un peu le « contrin-les d'en sortir ». Il faut un peu d'indulgence pour les uns et pour les autres. L'esprit humain, ayant été obscurci pendant 10 siècles, avait besoin d'une éducation prolongée avant de comprendre qu'il est irréligieux d'employer en religion d'autres armes que celles d'une conviction libre. Il y avait encore une autre guerre, assez fréquente alors, et qui est plus dans les mœurs de notre siècle que celle des arquebuses, c'était celle des plaisanteries. Les Genevois des deux écoles commençaient d'ordinaire par des discussions légitimes. Les catholiques mettaient en avant l'infaillibilité du pape. Les réformés leur opposaient celle de la parole de Dieu. On discutait sur ce sujet, dans les rues, dans les couvents, au coin du feu et jusque dans les conseils. Mais souvent, on passait de la dispute au quolibé. Un jour que les prêtres faisaient une procession et chantaient à pleine gorge des prières pour la conversion des hérétiques, tout en regardant à droite et à gauche, des Huguenots groupés au coin d'une rue, trouvant quelques ressemblances entre ces chants et le cri de certaines bêtes de somme, dirent en riant les uns aux autres « Donnez des chardons à ces ânes qui braillent et qui braient !» Hélas, s'écriaient les sœurs dans leur cloître, ils font encore tant d'autres dérisions qu'on ne pourrait les écrire toutes dans une année. C'est la sœur Jeanne qui raconte ce fait. Son récit étant plein de fables, nous ne pouvons en garantir l'authenticité. La plupart des prêtres avaient le bras plus fort que l'intelligence et préféraient les coups d'épée aux coups de langue. Le dévot chanoine et vaillant chevalier Messire Pierre Vernely bouillonnait de colère. Il criait dans les couvents, dans les maisons, dans les rues même. Il voulait combattre et prouver, la hallebarde à la main, qu'on devait à la papauté un respect suprême. Il avait de fréquentes conférences avec les chefs du parti, soit ecclésiastiques, soit laïcs, chez Perceval de Pesme, chez M. de Thorens ou chez le vicaire épiscopal. Tous avaient l'œil et l'oreille aux aguets, décidés à profiter de la première occasion pour assurer le triomphe de leur cause. Ils crurent alors le moment d'agir arrivé. On était au commencement de mai, temps de la foire de Lyon, très fréquentée alors par les Genevois. Quelques-uns des principaux Huguenots hésitaient pourtant à s'y rendre. Quitter Genève dans ce moment leur semblait difficile car il y avait dans le ciel tous les signes avant-coureurs d'un orage. Ils crurent toutefois avoir le temps de faire ce petit voyage avant que la crise n'arrivât. Quelques-uns des plus hardis affichèrent même des placards portant ces mots « Allons à la foire avant la guerre et la délivrance de Genève. » Ils partirent et l'on dit aussitôt dans certains conventicules qu'il fallait tuer ceux des Huguenots qui restaient, fermer ensuite les portes à ceux qui reviendraient et sauver ainsi la religion de Genève. Mais il convenait selon quelques-uns que les pompes du culte préludassent à ces combats de la foi. Le dimanche 4 mai était la fête du Saint-Suaire. ce linge dans lequel le corps de Jésus-Christ fut enseveli et sur lequel, disait-on, était restée l'empreinte de sa figure, était exposé ce jour-là à Genève et en d'autres jours dans 10 ou 12 villes différentes qui prétendaient toutes le posséder. Au moment où la Réforme s'efforçait de rendre à l'Église la véritable image du Sauveur, telle qu'elle est dans la Sainte Écriture, les plus ardents fauteurs du catholicisme étaient fiers d'exhiber sur une toile les traits que 15 siècles, disaient-ils, n'avaient pu effacer. Pour donner plus de relief à la fête, le vicaire général chargea de l'office Pierre Vernely, regardé comme l'un des plus considérables d'entre ses chanoines et qui était à la tête des plus belliqueux. Le concours fut nombreux. Une grande ferveur, de secrètes émotions, d'ardentes dévotions rendirent ce jour-là le culte plus solennel. Vernely avait revêtu ses plus beaux habits sacerdotaux et présidait à la fête avec un religieux enthousiasme et un superbe orgueil. Il était fanatique, mais sincère. Sa devise était « Tout pour l'honneur de Dieu et de la Sainte Église ». Convaincu de l'efficace du sacrifice de la messe, il dit l'introït, chanta l'offertoire, consacra l'hostie et fit l'élévation. Les accents émus qui sortaient de son cœur retentissaient sous les voûtes de la cathédrale. « Quelle belle voix, disait-on, quel bel homme! Au monde, il n'y a tel officier, et de 10 ans, on a vu faire un si bel office à Genève !» Après la messe du Saint-Suaire, les catholiques ne doutèrent plus du triomphe prochain de l'Église. Un nouveau combat allait commencer. Nous n'oublions pas le peu d'étendue du champ de bataille. Nous ne racontons pas les destinées de l'Empire des Perses, des Romains, des Russes ou des Allemands, mais celle d'une petite ville entourée d'un petit territoire. Tout est ici sur une petite échelle. Cependant, le combat dont nous allons parler amena la rentrée du prince-évêque et si les desseins formés par ce prince ecclésiastique, le duc de Savoie, l'empereur lui-même, avait alors, comme tout semblait l'annoncer, reçu leur exécution, la liberté et la réformation étaient perdues dans Genève. Cette perte n'eut-elle eu aucun effet? Nous trompons-nous en pensant que la grande bataille qui devait durer pendant tout le XVIe siècle, celle que l'Évangile et la liberté livrèrent à Rome, au jésuitisme, à l'Inquisition, bataille qui est sans doute la plus importante des temps modernes, n'aurait peut-être pas eu la même issue si cette petite ville, pleine d'une foi vivante et d'un courage héroïque, n'avait pas combattu dans les rangs et communiqué au protestantisme la vigueur nécessaire pour vaincre de redoutables ennemis. En entendant raconter ces petites luttes, bien des amis de l'Évangile et de la liberté diront peut-être « Ne méprisons pas ces petites choses, c'est nous que ce récit concerne. Ces gens ont été des premiers à combattre pour des biens très précieux dont à cette heure nous jouissons en paix. » Vernely n'entendait pas se contenter d'une messe. Il fallait, selon lui, un combat. À peine avait-il posé ses robes, ses croix et son étole, qu'il pensait à s'armer de pied en cap, cela faisait partie de sa piété. Il n'eut pas de peine à persuader ses confrères, car les prêtres étaient dans tous ces troubles plus impérieux que les laïcs. La première bataille ayant échoué, on prépara la seconde. Les faits jouent dans la réformation de Genève un rôle aussi grand que les idées. Les grandes questions du droit, de la liberté, de la vérité, ne s'élaborent pas simplement dans le cabinet de quelques jurisconsultes ou de quelques théologiens. Elle se discute au foyer des bourgeois, dans les conventicules des évangéliques, dans le conseil général des citoyens, et elle se décide sur la place publique au milieu de luttes redoutables. Toutes les idées deviennent des actes, toutes les doctrines enfantent des événements, toutes les théories font battre les cœurs, arment les bras et produisent de grandes délivrances. Il pouvait y avoir quelque mal dans cette puissante activité, mais c'était un mal nécessaire. L'après-midi du jour de la fête, Vernely et un grand nombre d'autres ecclésiastiques se réunirent en conseil chez le vicaire épiscopal. Ils regrettaient amèrement que la bonhomie des fribourgeois et la faiblesse des syndics eussent fait échouer leur complot. La partie était manquée, il fallait la recommencer. Un projet ajourné ne doit pas être pour cela abandonné. Les catholiques devaient profiter du moment où l'absence des principaux huguenots rendrait la victoire facile. Pendant cette discussion, quelques citoyens des deux parties se promenaient près du Rhône, en ayant l'air de ne penser qu'à prendre quelques délassements. C'était le soir d'un jour de fête. Le soleil qui allait se coucher envoyait ses rayons en trait de feu sur le lac. L'Occident était en flammes, les eaux réfléchissaient les images du ciel et brillaient d'éclatantes et mobiles couleurs. Mais les citoyens étaient peu sensibles dans ce moment aux beautés de la nature. Quel que fût le calme apparent du dehors, de vives passions remuaient les âmes. Peu à peu, la conversation s'engagea. On parla religion comme c'était la coutume. On discuta avec chaleur, puis on en vint aux disputes, puis aux injures, puis enfin, quelques bras se levèrent et frappèrent. Le soleil venait de se coucher, les feux diminuaient, tout pâlissait autour de la ville, le jour s'effaçait et tombait. Cette heure favorable à la promenade avait attiré beaucoup de monde, le bruit en attirant davantage encore. Des huguenots, des mamelouks, des catholiques, des réformés accouraient sur la place du Molard. « Y a-t-il » disait-on. Déjà, les partis se formaient en deux groupes différents. Chacun des arrivants se joignit à ses amis, on se classait, bientôt on se compta et deux bandes s'alignèrent. Quelques personnages plus passionnés se mettaient en avant et remuaient la foule. Le geôlier des prisons épiscopales et son frère, grand crieur, qui maniait très bien le poignard, « homme fortement mutiné », dit un manuscrit, vrai séide du XVIe siècle, étaient des plus violents. Des moines, des prêtres, du bas clergé se mêlaient au peuple sur la place publique, tandis que leurs supérieurs consultaient entre eux chez le vicaire épiscopal. Ils excitaient la foule et se plaignaient tout haut que les fribourgeois les eussent empêchés le 28 mars de détruire les hérétiques, ce qui était selon eux une rigueur nécessaire. Cependant, les deux partis, tout en étant déjà en présence l'un de l'autre, paraissaient ne pas songer à en venir aux mains. Un nommé Pinet, envoyé par les clercs pour faire l'amorce, se mit à émouvoir le peuple. Il se glisse au milieu des groupes catholiques et cherche à enflammer des esprits. « Qui veut combattre avec moi pour sa religion ?» leur dit-il. Puis, se tournant du côté des huguenots, il les provoque et s'écrie « Par le sang de Dieu, votre loi est méchante, luthérien. S'il y a homme parmi vous qui veuille maintenir le contraire, qu'il vienne ici et qu'il combatte. » Cette provocation fut plusieurs fois répétée, mais les réformés craignaient une émeute. « La paix est faite, disait-il, ne la rompez pas. » Quelques-uns ajoutaient « Soyez sur vos gardes, Pinet est un fort mauvais garçon. » Personne ne voulait mordre. Un huguenot, pourtant, l'impatient ami Perrin, ne put se contenir. Provoqué par l'agent des prêtres, il se jeta sur lui et il ne s'en fallut guère qu'il ne le tua. Huguenots et catholiques se jetèrent entre Perrin et Pinet. La paix fut rétablie, ou du moins parut l'être. Mais une étincelle venait de jaillir et le feu allait être allumé. En effet, un jeune catholique, marin de Versonnet, échauffé par la scène dont il venait d'être témoin, quitta la place et monta précipitamment la rue du Perron. Versonnet était d'un esprit borné, mais d'une imagination ardente et d'un attachement fanatique à l'Église romaine qu'il regardait comme la source une et exclusive de la sainteté et du bonheur éternel. Il avait outre cela une affection sans borne pour son cousin Perceval de Pesme et le respect le plus profond pour la souveraineté de l'évêque. Ses ancêtres avaient rendu de grands services à Genève. En 1476, son aïeul Aymon, conseiller de l'évêque Jean-Louis de Savoie, avait prêté son argenterie à la ville pour apaiser les Suisses qui la menaçaient de pillage. Le noble jeune homme voulait faire pour Genève plus encore que son aïeul, détruire l'hérésie. Sa femme, dont les prêtres étaient les grands amis, l'y poussait nuit et jour. Les membres du conseil épiscopal, les chanoines et les principaux prêtres, tous armés, attendaient dans la maison de Messire de Bonmont l'issue de cette escarmouche. À chaque bruit, ils prêtaient l'oreille, croyant entendre le pas d'un messager. Nul ne paraissait. Tout semblait annoncer que la paix ne serait pas troublée. Pinet s'était retiré, confus, et Perrin, malgré la vivacité qui lui était naturelle, savait très bien que les réformés ne voulaient pas prendre l'initiative et troubler la paix publique. La tranquillité était rétablie. Quelques citoyens des deux partis étaient restés sur la place du Molard, mais un certain nombre de catholiques et de huguenots s'en étaient allés et même pour sceller leur concorde, ils avaient été boire ensemble, se disant les uns aux autres qu'ils entendaient rester bons amis. La mèche était éteinte. Le jeune de Versonnet et l'impétueux chanoine allaient la rallumer. Le cousin de Perceval de Pesme, dont l'imagination était frappée, se dirigeait alors vers la maison de M. de Bonmont. Il heurta la porte à coups redoublés, il crie à haute voix « À l'aide! Au secours! On tue tous les bons chrétiens !» À l'ouïe de ces paroles imprudentes, les chanoines et les prêtres s'enflamment. Quelques-uns restent incertains, et mobile, mais messire Pierre Vernely, ce bon chevalier, se lève aussitôt. L'office qu'il avait célébré dans la cathédrale était à peine fini qu'il avait pensé à un autre et s'était dit qu'il fallait en ce jour ensevelir la réformation dans un suaire dont elle ne sortirait plus. Aussi, après avoir posé ses habits sacerdotaux, il s'était couvert de sa cuirasse, avait revêtu ses jambières, suspendu sa grande épée à son côté, pris sa pesante hallebarde et ainsi armé, il s'était rendu chez le vicaire épiscopal. Au moment où Vernely entendit Versonnet, il pensa que l'heure était venue. Debout au milieu des prêtres, l'arme au poing, il invitait du regard ses collègues à le suivre. Plusieurs hésitaient. Alors le chanoine, ardent en l'amour de Dieu, dit l'une de ses plus grandes admiratrices, « Bon champion de la foi, voyant que personne ne s'apprêtait au combat, n'eut patience et ne put attendre les autres sieurs d'église, il sortit le premier d'un courage ardent. Le sort était jeté. La bataille allait commencer car nul n'était capable d'arrêter l'impétueux chanoine. Cependant, trois autres prêtres, moins notables mais tout aussi violents, Berthollet, Manillier et Servant, couraient à Saint-Pierre et ordonnaient au sonneur de tinter le tocsin à coups pressés et redoublés. Ces hommes, effrayés eux-mêmes par ce qu'on leur disait de l'émeute, sonnèrent aussitôt au grand effroi des chrétiens, dit la sœur. On entendait alors dans toute la ville retentir les sons majestueux de la Clémence, cloche antique, bien connue à Genève et qui porte sur ses cercles cette inscription « Ego vocor Clemencia, Ave Maria, Gratia plena ». « Pleben voco convoco clerum, vos mea cuntorum fit terror demonorium ». En effet, la Clémence, en ce moment, appelait le peuple, elle convoquait le clergé, et quant aux démons, dont sa voix devait être la terreur, c'était aux yeux des prêtres les réformés. Ceux des Huguenots qui étaient restés au Molard se disaient que les papistes voulaient revenir à l'assaut et les égorger dans leur maison. Les ténèbres augmentaient l'émotion que produisaient les sons lugubres du beffroi. « Qu'est-ce ? » disaient les citoyens. « Les hérétiques se sont assemblés sur la grande place pour piller les églises, » répondaient quelques catholiques. « Réunissons-nous de l'autre côté devant les halles, » répondait-on. Quelques-uns disaient bien que c'était un faux bruit, que les Huguenots s'étaient trouvés sur les bords du fleuve simplement pour se promener, comme on fait partout le dimanche soir, et que déjà même ils se retiraient. Mais les plus violents ne voulaient rien entendre. Ils accouraient de tous côtés, appelés par le tocsin, et déployaient leurs enseignes. Du côté des halles, ils criaient de toute force. « Vous, tous chrétiens, assemblez-vous ici, et ayez bon courage pour maintenir la sainte foi !» Et fut grand tumulte entre eux. C'était la chose fort piteuse. Les autres sieurs d'église, qui, au premier moment, avaient hésité à suivre le chanoine, prirent courage et, quittant la maison du vicaire, descendirent au Molard. Aux yeux des prêtres, le moment était décisif. Un grand nombre d'entre eux, sans doute, ne songeaient qu'à leurs intérêts personnels, mais plusieurs pensaient que l'issue de la lutte était pour le catholicisme dans Genève une question de vie ou de mort. Ils frissonnaient en voyant ceux qu'ils appelaient des enfants dénaturés se détourner des mamelles de leur mère, la papauté. « Ces esprits curieux et rebelles, disaient-ils, s'imaginent renverser l'Église, mais tous les efforts de l'enfer ne les branleront pas. Épouse de Christ, ô toi qui nous procures avec ce divin époux de chaste et éternel embrassement, Castos eternosque en plexus, nous sommes à toi pour toujours. » Vernely était décidé à donner sa vie, s'il le fallait, pour la cause de Rome. Ce ne fut pas chez lui la résolution d'un moment. Voyant les progrès de la réformation, il s'était promis de tout sacrifier pour l'anéantir et c'était dans ce dessein qu'il descendait alors du quartier de Saint-Pierre à celui du Molard. Il fallait accomplir le 4 mai ce que le 28 mars n'avait pu faire. Vernely voulait être le premier, dit Froment, à maintenir comme capitaine la Sainte Mère Église. Il fut à la fois le héros et la victime de cette importante journée. En vain lui criait-on de tous côtés « La paix est faite !» Il ne voulait rien entendre. Il était le plus obstiné et le plus furieux des prêtres. Plein de ferveur et de dévouement à la papauté, il s'écriait « Hola ! Vous tous bons chrétiens, à mon aide !» Plusieurs laïcs et plusieurs clercs se joignirent en effet à lui et tous ensemble hâtèrent le pas vers la place. « Messieurs les chanoines et autres gens d'église furent les premiers à l'enseigne, » dit la sœur. En peu de temps, 1500 hommes et principalement des prêtres se trouvèrent réunis. Pendant ce temps, d'autres ecclésiastiques se réunissaient en armes dans la cour de Saint-Pierre pour arrêter les Huguenots qui voulaient se rendre au lieu du tumulte. Trois réformés venant du bourg de Four arrivèrent bientôt d'un pas précipité devant la cathédrale. Aussitôt la bande sacerdotale leur ferma le chemin et messieurs les prêtres, dit la bonne sœur, commencèrent à frapper dessus. Un de leurs adversaires, assez malheureux pour recevoir d'eux 28 blessures, tomba sur le pavé. Quant aux deux autres, ses chiens prirent la fuite ainsi que le porte le bulletin de Sainte-Claire. Dans ce moment, Vernely et ceux qui le suivaient arrivaient sur la place. La nuit était profonde. Les étoiles donnaient seules une obscure clarté. Les hommes paraissaient comme des ombres et il était difficile de distinguer ses amis de ses ennemis. Des bruits sourds et confus, des sons inarticulés, des marques d'approbation ou de colère sortaient du milieu des ténèbres. C'était comme le sourd mugissement de la mer au moment où l'orage va éclater. Pendant quelques secondes, un grand silence. Puis tout à coup de vives clameurs. Au moment où arrivait le chanoine, le casque en tête, armé de pied en cap, il entendit les cris des réformés et, ému de colère, il agita sa hallebarde et la poussa vivement de leur côté en criant dans son patois de Fribourg « Cher Dieu, où sont ces luthériens qui disent du mal de notre loi ? Sans Dei, où sont-ils ? » Et il ajoutait un gros jurement, puis se tournant vers ceux qui le suivaient « Bon chrétien, disait-il, courage, n'épargnons pas ces canailles !» On eût dit le fameux géant Goliath qui, un casque d'airain sur la tête, armé d'une cuirasse, la hallebarde à la main, insultait les troupes d'Israël. À peine le chanoine capitaine avait-il ainsi donné le signal que le combat s'engagea. C'était une belle nuit de printemps, tout était pâle, gris. Il était, comme nous l'avons dit, aisé de se méprendre. L'obscurité et le silence donnaient à cette lutte quelque chose de solennel. Les ombres qui se mouvaient sur la place du Molard s'agitaient, se jetaient l'une contre l'autre et se donnaient au milieu des ténèbres des coups redoublés. Une ombre courait après une ombre, mais de part et d'autre on se battait à outrance, de près, corps à corps. De temps en temps il y avait une courte lueur, les épées se rencontraient et jetaient des étincelles. Le violent Perrin, le zélé Claude Bernard, était à la tête des Huguenots et frappait fort. Jean Rosette et le chanoine de la Viole étaient ceux qui, du côté des catholiques, fondaient sur leurs adversaires avec le plus de fureur. Tous les quatre tombèrent blessés sur la place. D'autres encore furent atteints et leur sang coula. Mais on ne s'en apercevait pas et les combattants foulaient les blessés aux pieds jusqu'à ce que des amis, les reconnaissant, les portassent dans quelques maisons du voisinage. Un coup plus retentissant allait être porté, une victime plus notable allait joncher la terre. Vernely, qui était resté en haut de la place, ne pouvant voir ses ennemis, les appelait de toutes les forces de sa poitrine. « Où sont-ils » criait-il toujours. « Sans Dei, où sont-ils, ces luthériens qui disent du mal de notre loi ?» Des Huguenots, qui étaient non sur la place, mais dans la rue de la Croix d'Or, toutes les rues adjacentes étaient pleines de catholiques et de réformés, répondirent « Ils sont ici !» Le chanoine, qui ne voyait pas, mais qui entendait, se précipita du côté où le cri s'était fait entendre, la hallebarde à la main. Il atteint ses ennemis, donne du fer, donne de la hampe, maniant son arme aussi facilement que son bréviaire. En tuant des luthériens, il espérait tuer le luthéranisme lui-même. Les Huguenots, sur lesquels il s'était jeté, ne restaient pas oisifs et paraient de leurs épées dégainées les coups du prêtre. À la fin, l'un d'eux, que ce fer long et pointu impatienté, s'élança, saisit la hallebarde et, la brisant, il en jeta au loin les morceaux. Le héros du chapitre, se voyant privé de son arme favorite, ne perd pas un moment. Il dégaine son épée à deux mains et se jette sur ses adversaires. Il frappe d'estoc, il frappe de taille. On eût dit un Suisse de grand son. Les Huguenots, se voyant si vivement attaqués, ne s'en tiennent plus à la défensive. Ils fondent sur le champion de la papauté. Ils le chargent, dit la sœur Jeanne. Mais, ajoute-t-elle, il se défendait vaillamment. Sa cuirasse lui couvrait le corps, depuis les épaules jusqu'à la ceinture. Aussi, tous les coups qu'on lui portait ne faisaient que blanchir, si bien et si subtilement il était armé. À la fin, un homme du peuple, nommé Pierre Lost, à ce que l'on croit, pauvre charretier, impatient de cette longue lutte, voyant dans Vernely non plus un prêtre mais un soldat, s'approche, tourne autour de lui, cherche le défaut de la cuirasse et lui plonge son épée dans le corps. Le chanoine chancelle et tombe. Ainsi, le blasphémateur fut tué, et il demeura sur la place sans tirer ni pied ni jambe. La lutte avait eu lieu devant la demeure de l'un des plus zélés évangéliques, le conseiller Chautan. Vernely tomba sur les degrés de cette maison. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Quelques prêtres qui étaient prêts, voyant leur capitaine mort, s'enfuirent effrayés, chacun en son couvent ou au cloître de Saint-Pierre. Cependant, la mort du général ne mettait pas fin au combat. Des prêtres avec leurs partisans et des huguenots se portaient encore des coups quand le syndic de la garde, ministre des armes d'Angenève, arriva. Il étendit son bâton syndical et ordonna aux citoyens de retourner dans leur maison. Le commandant de la cavalerie, de chapeau rouge, l'aidait de tout son pouvoir. « Arrêtez !» disaient l'un et l'autre. Tous leurs cris étaient inutiles tant l'émotion populaire était grande et les courages enflammés, nous dit une chronique. Le syndic, s'avançant au milieu des combattants, les conjura de se séparer, mais il reçut un coup à la tête de la main d'un prêtre. Ce que la mort du chanoine n'avait pu faire, la blessure du magistrat l'accomplit. Cet événement mit fin au combat. Les réformés, pleins de respect pour le syndic, mirent leur épée dans le fourreau et rentrèrent dans leur maison. Mais quelques prêtres et quelques-uns de leurs partisans refusèrent d'obéir. Ils ne voulaient pas cette fois-ci manquer leur coup. Ils n'entendaient pas que le 4 mai vit comme le 28 mars leur projet avorté. Ils étaient décidés à ensevelir la réforme. Des bandes exaspérées parcouraient toutes les rues. Ceux qui les composaient appelaient à insulter les huguenots, mais ceux-ci se refusaient à châtier ces prêtres fanfarons. Cette patience même n'apaisa pas ces fanatiques. Ils continuèrent leurs provocations jusqu'au point du jour. Toute la nuit, les chrétiens furent en armes, dit la sœur Jeanne, cherchant ces méchants chiens, mais ce fut pour néant, car tous s'étaient cachés. Quand le jour commença à paraître, messieurs du clergé et leurs alliés, fatigués de cette nuit tumultueuse, allèrent se mettre au lit et ainsi finit leur seconde attaque. Maintenant, on allait chercher à obtenir par l'intrigue et la terreur ce que les armes n'avaient pu donner. Thank you.